Franck Ferrand sur Europe 1, au cœur de l'histoire.
Et l'heure est venue sur Europe 1 de retrouver Franck Ferrand pour une nouvelle plongée dans le passé, au cœur de l'histoire. Bonjour Franck.
Bonjour Julia, bonjour à tous. Dans l'histoire de France, certains petits groupes plus ou moins anonymes ont fini par devenir célèbres. Alors il y a notamment le Serment des Trois Vendéens, il y a les Quatre Sergents de La Rochelle, on n'en a jamais parlé d'eux d'ailleurs.
C'est vrai.
Et puis il y a les Six Bourgeois de Calais, ce sont eux qui vont nous intéresser aujourd'hui.
Ce qui nous ramène au tout début de la guerre de Cent Ans.
En effet, au lendemain de la célèbre bataille de Crécy, lorsque le roi d'Angleterre, Édouard III, vient assiéger, vient affamer, laminer les habitants de Calais.
De 13h à 14h sur Europe 1, au cœur de l'histoire. Franck Ferrand.
C'est une image d'Épinal, au sens propre, une de ces scènes dont l'illustration égayait jadis les salles de classe, un épisode majeur de l'épopée nationale, avec ce que cela suppose d'héroïsme patriotique et d'anglophobie à l'époque. Le sacrifice des bourgeois de Calais, coulé dans le bronze par le génie de Rodin, s'appuie sur les écrits de deux chroniqueurs médiévaux, Jean le Bel et Jean Froissart. Je vous résume l'affaire en quelques mots. Le roi Édouard III d'Angleterre, vainqueur de la ville de Calais après un siège très long, très coûteux, le roi Édouard aurait renoncé à tuer tous les survivants à la seule condition que 6 d'entre eux, des hommes valides, respectables et de bonne famille, se dévouent pour les autres et lui apportent les clés de la ville en procession honteuse, vêtus d'une simple chemise, les pieds nus et la corde au cou. Ils se devaient de livrer ainsi leur vie, en quelque sorte, de se livrer, si l'on peut dire, au nom de tous les autres, pour subir seul le châtiment suprême qu'il leur réservait. Froissart décrit le capitaine de Calais, Jean de Vienne, réunissant la population sous les halles pour lui faire part de l'exigence terrible formulée par le roi d'Angleterre. Cette épreuve supplémentaire ne pouvait évidemment que semer la désolation chez des gens déjà extrêmement malmenés par ce long siège, très éprouvés par 11 mois de souffrance. Et c'est dans un climat de pleurs et de gémissements qu'un des plus riches bourgeois de la ville, le dénommé Eustache de Saint-Pierre, se lève soudain, il faut imaginer la scène. Évidemment, il se dévoue le premier pour sauver ses concitoyens. Il est suivi par un certain Gendaire, puis par deux frères, Jacques et Pierre de Wissant, puis par Andrieux d'Ardre et Jean de Fienne, à ne pas confondre avec le capitaine, Jean de Vienne. Et tous les 6 se préparent en silence et ils se chargent des lourds trousseaux de clés de la ville et du château et s'en vont, tels des héros, jusqu'au camp d'Édouard pour y subir leur supplice. Or, le roi d'Angleterre, que ses chevaliers ne parviennent pas à amadouer, il est très remonté, Édouard, et il a de bonnes raisons, on va le comprendre dans un instant. Le roi d'Angleterre a déjà fait appeler le coupe-tête quand son épouse, la douce Philippa de Hainaut, se jette en larmes à ses pieds et réclame la grâce des 6 condamnés. Il finit par la lui accorder et la reine, tout heureuse de sa belle action, emmène les 6 bourgeois graciés pour les faire vêtir et restaurer. Voilà esquissé à grands traits cet épisode des bourgeois de Calais qui, pendant des siècles, allait être donné en exemple à tous les enfants de France. C'est sous le règne de Louis XV que cet épisode des bourgeois de Calais va faire couler le plus d'encre. D'un côté, le dramaturge Bellois en tire une pièce de théâtre qui, en 1765, remporte un succès formidable. Mais de l'autre, quelques mois seulement après la parution de la pièce, qui est publiée aussitôt dès qu'elle est montée, l'érudit Louis de Bréquigny retrouve à Londres des documents qui montrent, qui prouvent que Eustache de Saint-Pierre aurait reçu du roi Édouard d'Angleterre d'importantes récompenses en biens et en argent. Évidemment, depuis, les médiévistes se posent la question, ce prétendu martyr jouait-il double jeu? Le héros aurait-il caché un traître? En vérité, il y a un problème bien plus radical qui se pose à propos des bourgeois de Calais. Car si l'on en croit de récentes recherches, l'épisode en question aurait été tout simplement enjolivé et peut-être même quasiment inventé par nos deux chroniqueurs médiévaux. Dans un ouvrage qui est paru en 2002, Jean-Marie Meuglin a démontré que cette histoire relevait largement du mythe. Eh bien, Jean-Marie Meuglin est avec nous dans ce studio. Dans un moment, nous allons lui demander d'éclairer notre lanterne. Et avant cela, en compagnie de Martin Aurel, je vous propose de revivre le siège de Calais.
L'histoire sur Europe 1, c'est avec Franck Ferrand.
Nous nous intéressons aujourd'hui sur Europe 1 aux bourgeois de Calais. Avant votre récit, Franck, nous vous retrouvons avec vos invités pour en parler.
Bonjour Martin Aurel.
Bonjour Franck Ferrand.
Les auditeurs les plus fidèles d'Au cœur de l'histoire vous connaissent puisque nous étions allés ensemble à l'abbaye de Fontevraud sur le tombeau de l'extraordinaire Aliénor d'Aquitaine. Et puis nous avions aussi eu l'occasion de parler de cet extraordinaire mythe des chevaliers de la table ronde, de la légende du roi Arthur, de Merlin l'Enchanteur, etc. Alors, ce que j'aimerais avec vous, c'est que nous resituions un petit peu les choses dans leur contexte. Ce siège de Calais, il n'est pas venu comme ça. Évidemment, il est la conclusion d'une longue campagne du roi Édouard III d'Angleterre. D'abord, on se demande ce que faisait Édouard III d'Angleterre sur le continent. Il venait là pour reconquérir ce qu'il considérait comme son héritage. C'était son idée.
Absolument. Il était donc, il se considérait un héritier beaucoup plus direct que son cousin.
Philippe de Valois, qui va devenir le roi Philippe VI de France. Oui.
Puisqu'il était le petit-fils, par sa mère Isabelle de France, de Philippe le Bel, roi de France. Alors que,
ça nous replonge dans les rois maudits de Maurice Druon, tout ça.
Absolument, et dans Braveheart aussi, puisque c'est
évidemment
Sophie Marceau qui joue Isabelle de France. Et donc, à ce titre, on avait proclamé la loi salique, promulgué la loi salique, qui considérait que les femmes n'avaient aucun droit dans les successions. C'est-à-dire que ce n'est pas en raison de sa filiation maternelle qu'il devait être sur le trône de France. À vrai dire, cela posait d'autres problèmes. D'une part, il n'avait que 15 ans en 1328, au moment de la mort du dernier Capétien direct. Et puis d'autre part, la double monarchie, vous vous rendez compte, c'était très peu populaire.
Il ne faut pas oublier que c'est un Plantagenet qui arrive et qui l'a évidemment, j'allais dire, inscrit dans ses gènes, cette idée du double royaume des deux côtés du Channel, en fait. Hein, cette famille d'Anjou qui a pris possession du trône d'Angleterre se veut roi, enfin, se veut la famille de France et d'Angleterre, en fait. Il est le double roi.
Oui, il a des possessions continentales très importantes aussi, la Guyenne l'actuelle Gascogne. Et à ce titre, il doit l'hommage au roi de France. Et il rend très très vite à Philippe VI l'hommage, il se soumet à lui. Alors il y aura une sorte d'acte de félonie, si l'on veut, du point de vue français. Pour lui, il était trop jeune, puis il y a eu des trahisons de la part de Philippe VI. Donc il remet en cause sa parole, l'hommage à l'égard de son seigneur, il décide de l'attaquer. Donc il lance sa première campagne en 1339, c'est une chevauchée. C'est-à-dire que ce n'est pas une campagne fondée sur la conquête.
C'est quasiment un raid, en fait, on peut dire.
Exactement, un raid dont le but est, d'une part, de saper le moral de l'ennemi en pratiquant la tactique de la guerre brûlée, en détruisant systématiquement son économie, les fours, les moulins, les vergers, et en même temps, en prouvant à ses sujets, les Français, que Philippe VI n'a pas le sens de l'honneur, n'est pas audacieux, courageux, ce n'est pas un vrai chevalier, n'a pas les possibilités de les défendre.
Et d'ailleurs, il va en faire assez vite la démonstration. Alors, Philippe VI ne se laisse pas faire. Nous allons passer sur un certain nombre d'épisodes pour en venir à l'épisode majeur et fameux de la bataille de Crécy. Alors, c'est tragicomique, cette bataille de Crécy, parce que c'est vraiment c'est le désastre de la chevalerie française, hein, qui était très sûre d'elle et qui, dans cette affaire, finit dans un bourbier.
Oui, tout à fait, un bourbier, c'est le cas de le dire, en raison d'un orage terrible qui éclate au moment où elle fonce sur l'adversaire. Très astucieusement, au cours de sa chevauchée, Édouard III a compris qu'il était poursuivi par les Français, qui étaient en surnombre, deux ou trois, on calcule.
Mais en rapport de 1 à 3 presque.
Ouais,
hein,
exactement,
oui.
Après on ne va pas dire des chiffres parce que Froissart est
difficile
très fantaisiste, le chroniqueur qui nous en parle. Mais il a tout de suite pris position sur un plateau, il a fait creuser des fossés, des pieux aussi, et tout va se jouer grâce aux gens de trait, c'est-à-dire les spécialistes, les archers.
Et c'est arc et arbalète, hein, dans cette affaire.
Absolument,
finalement.
C'est l'arc gallois contre l'arbalète génoise, les Génois qui sont alliés des Français.
Les carreaux, dit-on, hein, d'arbalète,
et les
traits des archers, en fait, n'ont pas du tout la même efficacité sur le terrain de Crécy.
Absolument, d'une part, il a plu. Or, l'arbalète a une corde qui est faite à partir de cheveux. Donc, l'humidité lui fait perdre sa rigidité. Et donc, le trait n'est pas aussi fort et aussi précis. En revanche, la corde de l'arc long, le longbow, comme on dit en anglais, 1,60 m, est traditionnelle en chanvre. Donc, elle est toujours beaucoup plus dure, beaucoup plus rigide. Et elle ne souffre pas de l'humidité. Ce qui est arrivé aussi aux arbalétriers, c'est qu'ils avaient avec eux des gens qui portaient leurs boucliers, leurs pavois, comme on disait à l'époque, pour les protéger aussi bien de la pluie que des traits ennemis, des flèches des archers gallois, parce qu'il faut savoir qu'en gros, vous avez la possibilité de lancer une flèche, pardon, un carreau d'arbalète contre trois flèches. Donc, la rapidité d'exécution.
Et voilà, c'est ça. C'est une pluie, en fait, de flèches anglaises qui va tomber sur ce qu'il reste de la chevalerie française. Je dis ce qu'il reste parce qu'en plus, il y a eu énormément d'impédimenta. Les gens ne sont pas arrivés vraiment jusqu'au champ de bataille, qui d'ailleurs était disposé d'une manière très peu favorable aux Français. Enfin, tout ça va conduire à l'un des grands désastres. Je dis l'un des grands désastres. Il y aura bientôt Poitiers, 1356. Il y aura bien sûr Azincourt en 1415, etc. On en a connu des défaites face aux Anglais.
Face aux Anglais.
La mobilité, la rapidité, la discipline des Anglais, ne l'oublions pas, face à l'incroyable individualisme, si j'ose employer l'anachronisme, des chevaliers français, bien entendu.
C'est tout à fait exact. Nous savons que les chevaliers français n'ont pas obéi aux ordres de Philippe VI, qui voulait les retenir, qui voulait rassembler les troupes pour lancer une attaque qui profiterait de leur suprématie numérique. Et en revanche, Édouard III tient très bien ses chevaliers, pour beaucoup de raisons. D'une part, parce que la traversée de la Manche exige de faire une sélection. Et que la commission d'Arroy, comme on dit à l'époque, l'Arroy c'est l'armée, le désarroi c'est l'armée qui est battue, eh bien, fait attention. Elle prend les archers, les gens qui tiennent les épieux, il les entraîne bien. Et puis aussi, ces hommes ont un contrat à l'égard du roi, un contrat qu'on appelle d'endenture, qui les lie directement au roi d'Angleterre, à Édouard III. Quant à la France, ce sont des gendarmes, ce sont des cavaliers, des nobles pour la plupart, qui sont là pour l'honneur, pour le panache et qui donc vont aller vite sur l'adversaire.
Il ne faut pas oublier que la dynastie des Capétiens directs vient de s'éteindre. On est en train donc de changer de dynastie. On est dans un moment charnière de l'histoire de France. Ça n'est pas très favorable tout ça. Les Anglais vont désormais filer vers Calais. Ils vont bientôt mettre le siège sous les murs de Calais.
Europe 1, au cœur de l'histoire.
Précisément au cœur de l'histoire des bourgeois de Calais. Franck, on en parle avant votre récit avec votre invité aujourd'hui sur Europe 1, Martin Aurel, qui est professeur d'histoire du Moyen-Âge à l'Université de Poitiers et membre de l'Institut universitaire de France.
Pourquoi Calais, Martin Aurel?
Calais est une ville qui présente beaucoup d'avantages du point de vue portuaire. Proximité avec l'Angleterre, d'une part, proximité avec la Flandre aussi, puisque les villes textiles comme Ypres, Bruges, Gand sont alliées des Anglais qui leur fournissent la laine. Et puis, c'est une ville qui est extrêmement bien protégée. Or, l'armée française ne peut plus venir à sa rescousse.
Un port près les Flandres, ça, c'est pas négligeable, évidemment, pour les Anglais. Alors, le roi Édouard décide de mettre le siège devant Calais et il va faire construire cette espèce de ville en bois, Villeneuve-la-Hardie, c'est une chose absolument incroyable. On construit une ville qui, au départ, n'est qu'un camp militaire et qui, peu à peu, prend les proportions d'une véritable ville neuve, comme son nom l'indique.
Oui, tout à fait, parce que le siège va durer 11 mois et que le roi de France a le temps de reconstituer son armée. Il va même venir jusqu'à Saint-Gath, donc il est dans une position à hauteur, il peut contempler le camp retranché ennemi, et à ce titre, donc, on pense qu'il y aura un affrontement. Donc à nouveau, les Anglais vont défendre leur position, ils se tiennent, ils attendent à être attaqués. Bon, Philippe VI va être très... Cette fois-ci, il ne va pas commettre la même erreur qu'à Crécy.
Ce qu'il faut dire, c'est que d'un point de vue ravitaillement, les Anglais sont directement soutenus par les Flamands. Les Hartevelde et un certain nombre d'autres familles flamandes sont là pour leur fournir tout ce dont ils ont besoin sur place à Calais.
Oui, et puis il y a la suprématie navale, si l'on peut dire, puisque depuis la bataille de l'Écluse, qui a détruit...
En 1340, on est six ans plus tôt.
Exactement, qui a détruit la flotte française. Les mers sont anglaises. Bon, il y a eu quelques Normands, quelques Genois qui ont fait quelques tentatives pour briser le blocus aurait permis donc de ravitailler directement par mer la ville, mais cela échoue face à la supériorité des marins anglais.
Alors, à l'intérieur de la ville, évidemment, on essaie de s'organiser, mais on est obligé de liquider les bouches inutiles. Quand je dis liquider, on fait sortir. Ça, c'est un épisode épouvantable qu'il faut raconter.
Oui, oui, tout à fait. Là encore, ce sont les historiens.
Alors attention, c'est la chronique, oui, bien sûr.
les assiégés essayaient de se débarrasser des bouches inutiles.
C'est donc ce qu'ils faisaient systématiquement, du reste.
Ils leur ont demandé de traverser la porte de l'enceinte, d'aller vers le camp ennemi. Et Édouard III, grand seigneur, d'après Froissart en tout cas, mais Froissart est intéressé, puisque le roi d'Angleterre et l'époux de sa protectrice, Philippa de Hainaut, eh bien, il va même leur donner de l'argent et il va leur permettre de partir.
Alors les Anglais, évidemment, font autour d'eux place nette. On sait qu'ils pillent, qu'ils rançonnent tous les villages alentours. Ils prennent possession de la côte, ils installent leur fortin. Leurs navires rendent absolument inaccessible la ville de Calais par la mer. Donc par la terre, n'en parlons pas, et par la mer, c'est difficile. Alors on peut faire passer de toutes petites embarcations de nuit dans des conditions très délicates.
Oui, c'est ça. Il y a un Grimaldi de Gênes
par exemple,
qui a
décidément
réussi à faire une sorte de commando et à passer quelques navires.
Spécialistes de la ruse, les Grimaldi, ils l'ont démontré sur le rocher en 1297.
Voilà, puis bon, quelques Normands aguerris qui réussissent à briser le blocus, donc c'est une possibilité d'apporter de la nourriture, mais ça ne dure pas longtemps et au bout de 11 mois, le siège devient particulièrement pénible, d'autant plus que ces gens qui voient arriver le roi de France ont un moment d'espoir. Et puis
il va être déçu, c'est ce que on va raconter ça dans un instant. Il faut quand même remettre ça. Alors bien sûr, Calais n'a pas l'extension à l'époque de ce qu'on peut voir aujourd'hui, loin de là. En fait, c'est quand même une grande ville pour l'époque, fort bien défendue. Vous nous l'avez dit, tellement bien défendue qu'elle n'était prenable que par un siège. On est dans la situation classique des villes assiégées. Et les forces anglaises sont très importantes. Ce sont des milliers, d'hommes qui sont là. Hein. On n'est pas dans un petit siège de
oui, quelques
de Zemmour,
15 000, oui. Plus leurs alliés aussi. Bien sûr, puisqu'on a parlé des Flamands. C'est un siège extrêmement difficile. Rien ne filtre, personne ne passe.
On dit que dans Villeneuve-la-Hardie, il y a eu jusqu'à 100 000 personnes au plus haut moment.
Personnellement, je ne sais pas. Là, je pense que ce sont des chiffres un peu hauts. Déjà, Froissart ont des chiffres extrêmement élevés, de l'ordre de 30 000 guerriers pour l'armée d'Édouard III. Je pense qu'il faut revoir tout cela à la baisse.
Il faut compter avec la part de l'exagération.
Exactement.
Alors ça, c'est précisément ce que nous allons voir maintenant, puisque Jean-Marie Meuglin, je vous l'ai dit, nous démontre par divers moyens, nous y venons dans un instant, qu'en fait, ce que l'on a pris pour un très grand acte, un épisode majeur de la saga nationale, relèverait, semble-t-il, de la légende, en grande partie en tout cas.
Au cœur de l'histoire sur Europe 1, le récit de Franck Ferrand.
Entre mythe et réalité, le récit de Franck revient aujourd'hui sur l'épisode des bourgeois de Calais.
Vous l'avez donc compris, ce siège de Calais promet d'être très long. En tout, il durera 11 mois. Au départ, on ne peut pas imaginer une telle durée. Il faut quand même préciser quelque chose. C'est assez capital. Le 4 septembre, au moment où le roi d'Angleterre est venu encercler la ville, la moisson venait d'être faite. Les grains n'étaient pas encore battus, ce qui veut dire que seuls les bourgeois les plus riches possèdent à ce moment-là encore du grain dans leurs réserves. Et pour tenir, il va leur falloir prendre des mesures draconiennes, d'où l'évacuation des bouches inutiles, nous en avons parlé, d'où évidemment des essais de ravitaillement, qui sont des essais extrêmement délicats, puisque comme vous l'avez compris, la ville est bloquée autant du côté des terres que par la mer. Il faut aussi rationner les quantités de nourriture qui sont distribuées. Seulement voilà, le ravitaillement de la mer, par la mer va devenir de plus en plus difficile car à mesure que les semaines passent, la flotte anglaise qui effectue des patrouilles en permanence devient de plus en plus infranchissable. On parvient cependant à faire passer de nuit ou par des chenaux dérivés quelques barques à fond plat. Ça dure une partie de l'hiver et bien sûr le roi Philippe VI finance largement ce trafic. Seulement il ne faudrait pas prendre Édouard d'Angleterre pour un niais ou pour un naïf, il sait très bien que tout se révélera inutile si le blocus terrestre est contourné par les côtes. Et c'est pour ça qu'il va lancer dès février 1347, une opération massive de blocage. 120 navires participent à cette extraordinaire opération. Ça mobilise des milliers de marins. Toutes les plages sont hérissées de pieux pour interdire le passage aux barques en provenance de Boulogne. 80 navires sont constamment en patrouille devant Calais. Autant dire que la ville devient vraiment absolument coupée du monde. Cette fois, on peut dire aussi qu'Édouard a pris possession de la ville avant même de s'en rendre officiellement le maître. Pour compléter son dispositif, il dispose d'une forteresse proche de la ville, le fort Risban, forteresse sur laquelle on édifie toute une structure en bois munie d'armes de jet. Et ceux de Calais, comme les nomment les Anglais, les pauvres assiégés, sont de plus en plus coupés. Leur capitaine Jean de Vienne ne voit plus d'issue sans un secours rapide du roi Philippe VI de Valois. Alors le 26 juin, deux barques avec l'énergie du désespoir tentent de franchir les lignes de navires anglais. En vain, elles avaient pour mission d'en appeler solennellement au roi de France. La lettre de Jean de Vienne, qui a été interceptée par les Anglais, dit ceci, on l'a conservée cette lettre, je cite « Sachez qu'il n'y a rien qui ne soit tout mangé, et les chiens, et les chats, et les chevaux. De vivres ne pouvons plus trouver si nous mangeons chair de gens, si n'avons pas un bref secours. Aussi sommes-nous mis d'accord que, si nous n'avons bref secours, sortirons hors de la ville pour combattre, pour vivre ou pour mourir. » Et il est vrai que dans la ville, on en est réduit à gratter les murs, il n'y a plus rien à manger. C'est ici, très certainement, qu'il faut placer l'épisode pénible que relatent plusieurs chroniqueurs. Certains habitants de la ville, poussés à bout par les privations, vont prendre la décision de se rendre de leur propre chef. Ils sont sans doute plusieurs centaines à se présenter ainsi hors des murs, en face des assaillants. Et la vérité, et ça arrive souvent dans ce genre de circonstances, la vérité c'est qu'ils vont finir par périr entre les deux camps. Ils ne pouvaient pas deviner, les malheureux, que cette fois le roi de France, sans avoir eu besoin de recevoir le cri de désespoir de Jean de Vienne, que le roi de France s'apprête à voler à leur secours. En effet, à Arras, à partir du 24 mai, Philippe VI a réuni une armée nombreuse, puissante, bien que le roi de France n'ait pu obtenir le concours de ses vassaux flamands, qui eux-mêmes sont prisonniers du sentiment pro-anglais de leur population. Cette armée, très importante, on parle de dizaines de milliers de fantassins, de très nombreux cavaliers, peut-être 35 000, nous allons voir ce qu'il faut penser de ces chiffres dans un instant. Cette armée se met en marche à la mi-juillet 1347, donc environ un an après le désastre de Crécy. Vous imaginez la joie des Calaisiens, ceux qui sont là sur les remparts, qui observent les environs. Leur joie le jour où ils aperçoivent enfin, au loin, sur les dunes, les éclats de métal qui annoncent l'arrivée des secours. Ils n'en croient pas leurs yeux, ils se jettent dans les bras les uns des autres. Ils ont l'impression que cette fois, on va venir les délivrer. L'os de secours, l'armée, si vous voulez, de secours du roi de France, est installée sur les hauteurs de Sangatte, comme nous le disait Martin Aurel, à deux lieues à peine de la ville assiégée. Seulement, le roi Philippe, au moment où il parvient à pied d'œuvre, constate l'extrême difficulté de la situation. Les Anglais ont eu le temps de prendre le contrôle complet de la région, qui est une région très marécageuse. Or, Philippe ne peut s'offrir le luxe d'un second Crécy juste un an après ce désastre. Il dispose en vérité d'une marge de manœuvre très réduite, pour ne pas dire nulle. Que font les rois du Moyen-Âge dans un cas comme celui-là ? Ils en appellent au jugement de Dieu. Ils proposent à leur adversaire de l'affronter en combat singulier. C'est ce que fait Philippe, mais évidemment, sa demande est rejetée par le roi d'Angleterre. Le 29 juillet, on annonce à grands cris l'arrivée d'une délégation pontificale envoyée d'Avignon par le pape, des cardinaux qui ont pour mission d'offrir leurs bons offices et d'essayer de trouver un terrain d'entente entre les deux souverains. Les Français sont plutôt conciliants, ils sont prêts à offrir le comté de Ponthieu et le duché de Guyenne contre la levée du siège. Entendons-nous bien, quand on parle du duché de Guyenne, ce serait d'un duché libre de tout hommage précisément. Seulement, je vous l'ai dit, le conflit comporte une dimension dynastique, donc une question de légitimité essentielle sur laquelle il est impossible de négocier. Et puisqu'Édouard, comme Philippe, s'estime dépositaire de la couronne de France, ni l'un ni l'autre ne peut transiger sans perdre la face. Alors, dans Calais, on espère beaucoup, on pense que le roi Philippe VI va vraiment se mettre cette fois en ordre de bataille. Toute la population encore valide est au rempart. On pousse de grands cris, on fait de grands gestes en direction du campement des Français. Il s'agit d'attendrir, si l'on peut dire, le roi Philippe. On l'appelle au secours, on allume des feux d'espoir sur les hauts murs. Philippe de Valois reste des heures entières à observer la détresse, l'espoir des Calaisiens. Il a les larmes aux yeux. Il perd, dit-on, tout appétit. Bien sûr, on peut imaginer que cette situation le torture. Seulement, encore une fois, il n'a aucun moyen d'agir. Les positions anglaises sont trop bien assurées. Il se ferait tailler en pièces au moindre mouvement de troupes. Alors, la mort dans l'âme, on s'en doute, Philippe VI va prendre une des décisions les plus difficiles qu'un roi de France ait jamais eu à prendre. Dans la nuit du 1er au 2 août, il décide de lever le camp et de faire repli avec son armée. Et c'est ainsi que dans les lueurs de l'aube, ce jeudi 2 août 1347, les Calaisiens de faction rempart observent horrifiés l'armée venue les secourir 5 jours plus tôt et qui, là, fait demi-tour et disparaît derrière les dunes sans avoir rien tenté.
L'Assedio di Calais, opéra de Gaetano Donizetti, inspiré Franck du siège de Calais.
Comment vous décrire l'état de désespoir des gens de Calais après ce départ du roi Philippe ? Cette fois, il faut vraiment penser à la reddition pure et simple, ce qui signifie que très probablement les Anglais vont passer tous les survivants au fil de l'épée. Le 3 août, dans la matinée, Jean de Vienne tient conseil des chefs de sa garnison et des échevins, des élus municipaux si l'on peut dire. Plus mort que vif, mais toujours digne, il s'avance au rempart, nous dit la chronique, et il demande à parlementer. Édouard III lui a envoyé le seigneur Gauthier de Mauny et plusieurs chevaliers. Le capitaine fait part de l'intention des habitants de Calais de se rendre au roi d'Angleterre, à la condition toutefois qu'il leur accorde la vie sauve. Gauthier de Mauny répond que son maître est très irrité contre les Calaisiens et qu'il aura du mal à le convaincre de se montrer clément envers les survivants. Et de fait, dans le camp anglais, une vive discussion s'engage. La plupart des grands barons d'Édouard seraient plutôt favorables à la clémence, nous dit-on, mais le roi lui-même se montre intraitable. Ces gens-là lui ont coûté bien trop cher en hommes, en temps et surtout en argent. Ils ont réussi à l'immobiliser, lui, le souverain de Grande-Bretagne, pendant près d'un an sous leur mur. Et maintenant, ils osent réclamer la vie sauve. Édouard fulmine. C'est dans ce contexte-là, bien sûr, que survient l'épisode des bourgeois de Calais.
Jean-Marie Meuglin nous a rejoint. Il est professeur d'histoire médiévale à l'Université Paris-Sorbonne, directeur d'études à l'école pratique des hautes études et auteur des bourgeois de Calais. Et c'est sur un mythe historique chez Albin Michel, Franck.
Bonjour Jean-Marie Meuglin.
Bonjour.
Pour tout vous dire, ça fait 10 ans que j'attends d'avoir cette conversation avec vous sur cette affaire des bourgeois de Calais. Vous avez donc publié en 2002 « Les bourgeois de Calais, essai sur un mythe historique ». Et vous nous dites, on va prendre les choses dans le détail bien entendu, mais vous nous dites qu'en fait toute cette histoire est surtout due à la plume imaginative et peut-être soudoyée de nos chroniqueurs, c'est-à-dire Lebel et Froissart.
Alors je ne dirais pas soudoyée, à la plume, oui, de Jean Lebel et de Froissart, qui a ensuite repris et retravaillé ce récit de Jean Lebel. Alors c'est un mythe, oui, c'est un mythe, mais qui joue aussi sur la réalité, car le récit que donne Froissart, nous avons toute une série d'autres récits contemporains qui, sur le plan de ce qu'on peut appeler la réalité, corroborent en partie ce que racontent Jean Lebel et Froissart. Il y a bien eu, ces récits nous l'attestent, des habitants, étaient-ils 6, peut-être pas, mais il y a eu à coup sûr des habitants qui sont venus se présenter devant Édouard III la corde au cou. Ça, nous pouvons en être sûrs, bien d'autres récits nous le rapportent.
Mais ce que vous nous dites, c'est que c'était une procédure tout à fait classique en cas de siège. Ces procédures d'humiliation au moment des levées de siège concernaient d'ailleurs autant la population civile que militaire et qu'ils étaient rituels.
Voilà, c'est tout à fait cela. On passe à ce moment-là de la réalité au mythe dans le récit de Jean Lebel et de Froissart. Il s'agit en réalité d'un rituel de capitulation. Un rituel de capitulation qui est attesté depuis des siècles. Les historiens n'y avaient pas fait attention, mais lorsque l'on relit les chroniques, on trouve beaucoup d'exemples de ce rituel. Et c'est un rituel que je qualifierais d'exécution symbolique. Nous avons affaire à des rebelles qui se sont opposés au roi, qui ont commis un crime de lèse-majesté.
Du point de vue d'Édouard III, en tout cas. Hein.
Absolument, du point de vue d'Édouard III. La punition de la lèse-majesté, c'est la mort. Mais si, pour des raisons politiques, il n'est pas judicieux ou possible d'exécuter ces rebelles, eh bien, il y a la possibilité de ce rituel d'exécution symbolique. Et l'on trouve, des siècles auparavant, déjà,
même dans l'Antiquité. l'Antiquité, on avait déjà. Hein,
Alors, dans l'Antiquité, il est attesté.
C'était des otages, c'est pas tout à fait la même histoire.
Dans la Bible, il est attesté. Il y a un épisode avec le roi de Syrie. Et puis ensuite, il y a une sorte de grand silence autour de ce rituel, mais probablement à continuer à exister. On le voit réapparaître au 10e, 11e siècle. Et ensuite, on a toute une série d'occurrences, des rois, des princes qui ont affaire à des rebelles coupables de lèse-majesté et qui exigent que soit pratiqué ce rituel d'exécution symbolique où les coupables viennent dire « Voilà, nous avons commis un crime, maintenant nous nous en repentons, nous demandons grâce et le roi fait semblant, comme Dieu qui pardonne aux pécheurs, d'être ému et de faire miséricorde à ces coupables qui maintenant se représentent,
se repentent
et c'est qui reconnaissent théâtre, qu'ils ont mérité la mort.
Le grand théâtre de la reddition, en
voilà,
quelque sorte.
Voilà.
Alors, ce qui est étonnant dans ces conditions, c'est que ce récit en particulier et l'histoire de la reddition de Calais, plus que tout autre, es-tu la postérité que l'on connaît ? Est-ce qu'il faut en rendre grâce ou en accuser le talent de Froissart ?
Oui, c'est certainement dû au talent de Froissart. Pas seulement. Ce que l'on peut constater, c'est que finalement, pendant un siècle et demi, ce récit n'a pas eu beaucoup d'écho. Bien sûr, les chroniques de Froissart sont lues, elles ont eu beaucoup de lecteurs, mais il ne semble pas que l'on ait attaché beaucoup d'importance à ce récit, pour une raison simple, c'est que les lecteurs connaissaient ce rituel de capitulation. Et donc, ce récit, cet héroïsme que Froissart, que Jean Lebel puis Froissart prêtaient aux bourgeois, ils savaient ce qu'il fallait en penser. Et puis, il y a une autre raison, c'est que Froissart était considéré dans la France du XIVe et du XVe siècle, à tort ou à raison, comme un chroniqueur qui était favorable au roi d'Angleterre.
Et voilà, c'est
ça. Donc, on ne reprenait pas Froissart.
Il travaillait pour la famille de Philippa de Hainaut,
oui,
qui était l'épouse du roi d'Angleterre.
Non, il a été à la cour de Philippa de Hainaut. Mais ensuite, Froissart est un chroniqueur qui vit des faveurs de différents mécènes, qui vit du succès de sa plume, et dont en réalité, on ne peut pas dire qu'il soit pour l'un ou pour l'autre.
Alors sur ce socle sujet à caution, comment s'est construit le mythe à part entière ? C'est ce que nous voyons dans un instant.
L'affaire des bourgeois de Calais est à l'honneur sur Europe 1. On en parle, Franck, avec votre invité Jean-Marie Meuglin.
On a vu à quel point le récit de Froissart avait contribué à imprimer dans les esprits cette image des six bourgeois qui se sacrifient pour l'ensemble de la ville. Une fois pour toutes, Jean-Marie Meuglin, on peut dire que cette démarche-là n'est pas avérée historiquement. Encore une fois, on est dans le cadre d'un rituel de reddition. Il n'y a pas, de la part des six bourgeois de Calais, d'héroïsme particulier, il faut le dire.
Absolument. C'est un rituel de capitulation, ce qui ne veut pas dire que ce soit une partie de plaisir
pour
ceux qui y participent, mais c'est un rituel tout à fait classique. Il n'y a pas, à partir du moment où on s'engage dans ce rituel, on ne court pas le risque d'être exécuté.
Alors, c'est ce qu'on a découvert au XVIIIe siècle concernant Eustache de Saint-Pierre, c'est-à-dire l'un des principaux bourgeois, peut-être le premier des échevins de Calais, on ne sait pas, parce qu'on a perdu les documents de cette époque, donc on ne peut pas savoir quel était exactement son titre. Est-ce que vous pensez que ces gratifications que lui a données le roi d'Angleterre après l'affaire et après sa libération s'inscrivent dans le cadre de ce qui se faisait régulièrement ? Nous ne sommes pas en présence d'un traître, si je comprends bien.
Une fois ce rituel de capitulation effectué, eh bien, les choses en quelque sorte rentrent dans l'ordre. Elles peuvent évoluer de manière tout à fait différente. On a toute une série de cas où des rebelles sont repris en grâce, et où les choses en quelque sorte recommencent comme avant. Bon, nous savons qu'à Calais, l'essentiel de la population a été expulsé de la ville, mais il semble
pour installer des Anglais.
Pour installer des Anglais.
C'est ce qu'il faut dire.
Oui. Nous avons conservé les documents où on a la description des parcelles et l'attribution de ces parcelles à de nouveaux habitants.
Et les Anglais resteront à Calais jusqu'en 1558, jusqu'à ce que François de Guise reprenne la ville.
Tout à fait. tout à fait. Mais on avait besoin aussi de gens pour effectuer cette transition, et il semble que Stache de Saint-Pierre ait été finalement celui qui permettait le passage de la ville française à la ville anglaise.
Alors, si je comprends bien, il n'y a pas dans cette affaire de héros, il n'y a pas non plus de traître. Il y a néanmoins, alors ça c'est incontestable, un mythe qui naît, qui va se développer et qui va s'épanouir au XVIIIe siècle. Ça c'est assez étonnant.
Il commence,
grâce au théâtre aussi.
Il entre véritablement dans l'histoire de France à partir du début du XVIe siècle. Au début du XVIe siècle, on a un historien d'origine italienne qui s'appelle Paul Émile, qui écrit pour les rois de France, une histoire des rois de France et des Français, et qui va reprendre ce récit de Froissart.
C'est qui en lui... fait un récit patriotique, là.
Et voilà, il le reprend, mais il le transforme. Froissart avait dit, bon, c'est de l'héroïsme, voilà des gens qui ont peur de mourir, mais qui se sacrifient. Paul Émile va dire, ils ont voulu mourir pour la patrie.
On change la dimension de l'épisode.
Paul Émile est un Italien qui connaît très bien les historiens. C'est un historien humaniste qui connaît fort bien les historiens antiques de l'Antiquité, qui écrit à la manière de Tite-Live et qui reprend ces exemples de vertu que les historiens de l'Antiquité donnaient. Et cet exemple des bourgeois de Calais, tel que Froissart l'avait décrit, eh bien, il le reprend et il en fait l'exemple de gens qui ont voulu mourir pour la patrie. Et à partir de ce moment-là, Paul Émile, c'est une chronique qui va avoir, une histoire qui va avoir beaucoup de succès. Le thème du mourir pour la patrie à propos des bourgeois de Calais entre dans l'histoire de France.
Et alors évidemment, après la Révolution française, avec la monarchie de Juillet, avec le Second Empire, à mesure que la bourgeoisie s'installe, évidemment aussi avec les débuts de la Troisième République, on va voir ce mythe des bourgeois de Calais prendre de l'importance, parce que ce sont des bourgeois, donc c'est pas négligeable évidemment du point de vue...
Alors le mythe prend de l'importance, mais il ne faut pas oublier qu'il y a cette affaire Bréquigny dont vous avez parlé.
Avec l'histoire de la trahison de Stache.
On a l'apogée en quelque sorte des bourgeois de Calais avec la pièce de Bellois en 1765. Et un an après, Bréquigny trouve à la Tour de Londres ces documents stupéfiants, si l'on considère que les bourgeois de Calais sont des héros.
Des patriotes.
Des patriotes.
Ils sont payés par le roi d'Angleterre,
c'est embêtant. C'est un rituel de capitulation. Et tout au long du XIXe siècle, il y a une sorte de...
polémique, disons-le.
De polémique, de querelle extrêmement forte entre ceux qui veulent défendre les bourgeois de Calais et ceux qui considèrent que... il y a un problème grave que Froissart soit aurait inventé ce récit, soit Stache de Saint-Pierre aurait été un traître.
Alors évidemment, l'affaire prend une dimension très symbolique avec la revanche entre 1870 et 1914. Le groupe sculpté de Rodin, évidemment, devient emblématique d'une certaine vision patriotique, héroïque, nationaliste, disons-le. Et en vous écoutant, je me dis que ce qui est terrible, c'est qu'il y a encore, 30 ans, 35 ans, si l'on avait dit « les bourgeois de Calais, c'est un mythe », on aurait un peu choqué l'auditoire. Aujourd'hui, je pense qu'on ne choque qu'une partie de l'auditoire. Pour les plus jeunes, ça ne dit plus grand-chose, les bourgeois de Calais.
C'est vrai, quand je demande à mes étudiants « connaissez-vous les bourgeois de Calais ?», ils me regardent et ils me disent « non, monsieur, nous ne savons pas ce dont il s'agit ».
Au tempora, au mores. Merci beaucoup, Jean-Marie Meuglin. Je rappelle le titre de cet ouvrage, « Les bourgeois de Calais, essai sur un mythe historique ». C'était chez Albin Michel en 2002. C'est encore assez facile à trouver, je le précise. Et puis, merci beaucoup, Martin Aurel, d'être venu toujours fidèlement. L'Empire des Plantagenets, c'est chez Perrin, c'était en 2004. Et puis, Le Chevalier Lettré, savoir et conduite de l'aristocratie au XIIe et XIIIe siècle, c'est paru l'année dernière chez Fayard. Merci à vous deux.
Merci.
Bonjour Elena Morna.
Bonjour Franck, bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je vous entraîne dans vos cuisines. Je suis sûre que vous rêvez de cuisines de rêve, tous. Eh bien, on va voir quels sont les bons plans entre les cuisines en kit, les cuisines des cuisinistes, les prêtes à poser, avec nos experts. Et puis bien entendu, on attend vos questions au 39-21, 34 centimes d'euros la minute ou sur europe1.fr. Franck.
Merci Elena, à lundi Julia.
Sur Europe 1, fidèle au poste. Bon week-end, à lundi Franck.